le colloque. On a fait Marseille, dont Marine
En
va
janvier.
parler. On a fait Clermont et on a refait ici les Moulineaux.
Une demi-journée.
Une
Mais
demi-journée en octobre.
qui était bien.
Voilà. Alors, on va commencer par toi, peut-être Marine, pour la journée de Marseille.
Vous m'entendez?
Oui, on
Ouais.
t'entend très bien. Je me coupe.
Alors, vous m'entendez, c'est bien? Oui, c'est bon? Alors, merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver et je vais vous faire part de quelques remarques sur le contenu donc, de cette journée d'études qui avait eu lieu sur la scène punk à Marseille le 11 janvier. Et donc, j'ai conçu cette petite communication d'une dizaine de minutes en m'appuyant sur les podcasts qui sont sur le site. Donc, je redis à quel point c'est une ressource fabuleuse pour les chercheurs et pour les citoyens et citoyennes. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que selon moi, ça a été une grande réussite. Je peux vous donner quelques chiffres, hein, puisque donc c'est une journée d'études qui a été très longue, qui a duré à peu près de 10h à 19h et qui a été également très suivie, puisque dans l'auditorium, nous avons eu, donc c'était l'auditorium celui de la bibliothèque départementale de Marseille, et donc on avait jusqu'à 200 personnes parfois qui ont assisté à la journée d'études. La structuration, donc, elle était assez classique et c'est vrai que j'ai pu m'appuyer sur l'expérience accumulée au fil des journées d'études passées, donc organisées sous la forme de tables rondes et d'entretiens. Mais selon moi, il y avait eu une sorte de déséquilibre puisqu'il y avait finalement assez peu de chercheurs actifs sur la scène et beaucoup plus de témoins. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de cette... est-ce qu'on peut se demander donc si le fait qu'il y ait eu aussi peu de chercheurs actifs dans la ville de Marseille qui travaillent sur ces sujets signifie qu'il n'y a pas de punk? Non, selon moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant une sorte de décalage entre une scène punk marseillaise ou plus largement rock, qui est marquée par une intense activité, par un nombre important d'acteurs, et de l'autre côté, la rareté, le peu de traces de cette production discographique en particulier. Et ce que je voudrais faire avant de parler rapidement des différentes générations pour essayer donc de vous faire une synthèse hein, assez succincte des points que l'on peut tirer, c'est peut-être se poser la question de ce qui explique ce paradoxe. Alors, ce paradoxe entre une intensité, hein, qui a une intensité des pratiques, des productions, et le peu de traces musicales, discographiques. Alors, la première chose qui a émergé, donc, c'est la question géographique, donc le rapport entre Paris-Province, et c'est notamment le témoignage de Franca de Cops and Robbers qui a permis de revenir sur les raisons de ce décalage. Donc, elle expliquait que dès 78, donc le groupe est actif. Le groupe rencontre Marc Zermati. Il monte à Paris pour enregistrer son premier LP chez Underdog, mais là, la maison de disques split. Donc il y a cette question, donc peut-être cet éloignement entre Marseille et Paris, Marseille et les studios d'enregistrement, qui va expliquer finalement le peu de traces que l'on a aujourd'hui. Il y a également donc un antagonisme qui est revenu de façon récurrente entre Paris-Province, et ça c'est Stéphane Dizagri qui nous disait que le problème de la scène marseillaise, c'est qu'on est marseillais avant d'être français. Et il a expliqué, c'est pour ça qu'on n'a jamais explosé, car il y avait cette forme de rébellion envers la France. Donc cet antagonisme serait productif finalement de ce décalage entre l'intensité de la scène et la concrétisation discographique en vigueur. Un autre aspect dans les difficultés donc de production et d'existence du punk à Marseille, c'est le fait que cela ne tient pas seulement à la géographie, mais aussi au rôle prescripteur des pouvoirs publics, des pouvoirs locaux dans les normes de goût. Et de ce point de vue, le témoignage passionnant de Loïc Tagnoux, donc qui faisait partie de l'équipe qui autogérait le sous-marin à Vitrolles, nous a exposé l'histoire lors d'une table ronde donc du lieu, du soutien aussi des musiciens. Et finalement, sa communication permettait de revenir sur le fait que il y a à Marseille, peut-être plus encore que dans d'autres villes, je ne sais pas, il faudrait comparer, un clivage culturel entre élite et musique populaire. Et donc, il a formulé ça assez bien, Loïc Tagnou, en parlant du délit de sale musique. Donc voilà pour quelques éléments d'explicitation de ce décalage que j'ai repéré et qui est revenu souvent comme un élément un peu structurel des différentes perceptions sur le punk. Je voudrais pour finir revenir sur les différentes générations puisque ça fait partie donc de cette approche méthodologique que nous avons dans Pind pour aborder les scènes locales. Alors la première génération, ce qui est apparu, hein, évidemment ce sont moins des éléments à prendre en tant que tels mais plutôt à discuter et qui font partie d'une construction, d'une mise en récit des vies punk et des parcours punk. Donc cette première génération, elle est marquée à Marseille par des groupes comme Nitrate, Cops and Robbers, Martin Dupont dans une moindre mesure qui est plutôt lié à l'afterpunk. Et ce qui est apparu de façon intéressante, eh bien, c'est qu'on a retrouvé tous les éléments de vocabulaire, de perception de soi et musicologique aussi qui font ce que l'on a identifié depuis le début comme étant la première génération. Alors il y a la question de l'amateurisme, Christian Nitrate parlait du fait qu'il voulait mettre le souk, il y a également la question de la rébellion, Franca de Cops and Robbers disait, je la cite, « On ne savait pas contre quoi on était rebelle, mais on était en rébellion ». Donc il y a presque ce motif finalement d'être punk à son insu. Un autre élément important qui avait été mobilisé lors de la table ronde, c'était la question de l'image, donc, qui fait partie aussi donc, de ces points sur lesquels on revient sans cesse, donc d'une construction à la fois esthétique et musicale du punk, et qui est saisie donc, pour Christian de Nitrate comme un élément de distinction, je le cite, « On trouvait des chaussures, c'était une manière de se distinguer du kidam ». Je passe assez rapidement donc à la deuxième génération et ce qui est apparu par rapport à cette deuxième génération, ce qui est spécifique, c'est que c'est loin d'être un âge d'or. C'est donc la question de la musique alternative à Marseille a été assez empêchée. On a peu de traces de ça. Donc, ce qui va prendre la place, ce qui va occuper le terrain, c'est plutôt la musique hardcore qui vient un petit peu plus tard, la Oi également. Et d'une manière générale, donc la question donc du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90 va être marquée par la problématique des salles. Donc c'est Stéphane Disagri de l'association Runway Movement qui nous expliquait « Marseille, il y a une scène, c'est ce qu'elle est, mais elle a des problèmes de salles et de public ». Le problème de la violence également est aussi ce qui a expliqué, ce qui est revenu comme un élément fort de ces années 80. Cette deuxième génération est marquée par la violence. À un moment donné, donc, la plaine, qui était l'épicentre finalement de la scène punk, a été comparée au Far West avec une couverture médiatique finalement assez importante autour de cela. Et si on s'intéresse plus largement à la géographie du punk à Marseille et que l'on prend en compte des localités comme Aubagne, qui était une ville communiste, Stéphane Disagri nous racontait que lors du concert de la paix à Aubagne, donc, il y avait eu une organisation particulière puisqu'il y avait eu carrément une barrière qui avait été mise au milieu donc du pit pour séparer les punks des autres membres du public. Donc une espèce de partition comme ça. Et pour revenir donc sur cette question d'Aubagne, ce qui est apparu important aussi donc dans cette deuxième génération du punk à Marseille, c'est l'émergence de foyers. Donc je parle d'Aubagne avec des groupes comme Vie d'Ordure, mais il y a bien évidemment Vitrolles que j'ai évoqué par le biais du sous-marin, qui était cette salle autogérée et qui fut menacée de disparition après l'élection de Bruno Maigret en 1997. Donc peut-être que François Guillemot se souvient de toute cette histoire, puisqu'il y avait eu un engagement de la part des groupes, je sais que Loïc Tagnou travaillait avec Marsu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage de Loïc nous a permis aussi de voir dans quelle mesure l'histoire du punk à Marseille était indicative du rôle de cette musique ou de ce mouvement culturel dans les luttes antiracistes. Et c'est un point qui n'est pas épisodique puisqu'il fait point de jonction avec la première génération, puisque Nitrate, bien que n'étant pas un groupe engagé particulièrement politiquement, a joué dans un concert lors du festival rock, enfin des un des concerts organisés par Rock Against Police qui avait eu lieu à Marseille après que Wari, donc dans la Cité des Flamands, eût été flingué par un policier qui avait dit après lors du procès « Ce soir, j'ai la gâchette facile ». Je vais encore citer deux autres éléments de cette deuxième génération telle qu'on peut l'identifier à Marseille, qui sont donc le rôle des squats dans les années 80-90 dans les processus créatifs, dans la mise en dialogue des formes musicales et artistiques. Et ça, c'est un point que l'on avait pu aborder avec Paquito Bolino du Dernier Cri, qui était à la fois musicien donc, dans le groupe Mâchoire, et puis qui développe son travail de sérigraphe, d'éditeur, d'activiste graphique, hein, comme il le dit, donc dans une esthétique qui est assez proche, dans un certain sens, de ce que faisait Bazooka. Le cinquième point, donc, c'est le modèle économique de cette deuxième vague. C'est Stéphane Disagri qui nous en parlait et qui expliquait au sujet des années 80-90 qu'il y avait à l'œuvre un autre modèle économique. Ce n'était pas le DIY et l'organisation finalement qui lui permettait de vivre, enfin son association, donc c'était de travailler la semaine et puis d'aller coller des affiches, d'organiser les concerts, etc. Je le cite, « Ma thune passait dans l'orga des concerts ». Et puis j'en viens donc pour finir à cette troisième génération qui me semble donc de la même manière qui est moins marquée par la musique que par l'importance des questions politiques de création de lieux autogérés. Et puis c'est Rémi Boivin donc, qui nous avait fait part de l'une des rares communications un peu de recherche qui expliquait que la finalité de ces événements, donc organisation de concerts, notamment l'association Pirate Punks, la finalité de ces événements n'était pas strictement musicale, je le cite, et on va rapidement voir pourquoi. Ce qui va vraiment fédérer cette scène-là, et on peut la périodiser après 2013, c'est la création à Marseille de l'événement MP 2013, qui est le moment où Marseille obtient le label capitale de la culture. Et cet événement va avoir des implications assez importantes en termes de politique de la ville. Il va y avoir un véritable rejet de ces opérations-là par les milieux alternatifs qui perçoivent Marseille-Provence 2013 comme une instance visant, je cite, à faire, je cite, un témoignage que Rémi Boivin avait recueilli, donc une institution cherchant à faire le ménage en contribuant à tuer les espaces culturels et les espaces de vie autour de la plaine. La plaine, donc, qui est vraiment cet épicentre alternatif depuis la fin des années 70. Et ce que, justement, l'association Pirate Punks, qui est un centre social autogéré, enfin, je dis une association, non, il se le définit comme un centre social, donc c'est plutôt l'idée, je les cite, de défendre une réappropriation de la ville au travers de l'appropriation de l'espace public. Alors, comme je le disais, ce qui est apparu au sujet de la troisième génération à travers les différentes communications que nous avons eues, donc c'est cette idée, cette hypothèse selon laquelle la troisième génération punk à Marseille n'aurait pas de finalité strictement musicale. Et ceci a été confirmé par différents propos, notamment ceux de Stéphane Raffi, qui crée un média, il parle d'un média propre, donc le Vortex, donc à partir de 2012, qui est également le fondateur du Festival de la Rue du Rock, mais qui a une large composante punk. Et c'est une approche aussi que l'on a retrouvée donc, dans le témoignage d'Olivier Crapoulet, directeur de la salle de concert La Salle Gueule et du label Crapoulet Records. Et donc ces différents éléments donc mettent en avant, au-delà de la passion de la musique, donc l'aspect transversal des organisations, c'est-à-dire que l'on va retrouver de façon récurrente les mêmes acteurs d'une orga à l'autre. Ce sont également les conditions de collectivité, d'horizontalité et d'interaction dans la vie sociale qui sont mises en avant par ces différents acteurs. Au point que Stéphane expliquait, je n'ai pas de définition du punk, sauf que c'est collectif. Olivier Crapoulet donc parlait lui de façon intéressante du do it ourselves. Et au lieu et au-delà donc et les valeurs communes donc au-delà du do it ourselves qui vont être mises en avant par Crapoulet, donc ce sont le rejet de l'ostracisme et la valeur de tolérance. Et j'ajoute également donc que Laurent avait eu la gentillesse de nous présenter, enfin de vouloir organiser un entretien avec le groupe Lunch. Le chanteur étant malade, donc Laurent, au pied levé, nous avait fait une analyse du parcours, de la trajectoire, et avait pointé quelque chose d'assez intéressant au niveau donc de cette troisième génération, troisième vague, même si tu remettais en question un peu cette structuration par vague, hein. C'était notamment donc la question de l'aspect littéraire des paroles de Lunch. Donc tu avais comparé ses paroles à ce que l'on peut trouver avec Zabriskie Point. Et donc ça, c'est quelque chose qui avait été assez intéressant parce que on se démarque un peu de cette image que l'on a d'un punk bas de plafond à Marseille. C'est une expression qui est revenue aussi de la part de certains partisans. Donc voilà, il y avait une pluralité en tout cas dans les approches d'écriture. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Et voilà.
Merci beaucoup, Marine. Je précise que derrière, grâce à Marine, il y avait eu un concert à la Maison Hantée et que voilà, ça avait aussi clôturé une journée. C'était, et puis le punk marseillais, c'est quand même. Moi, j'avais été frappée de voir qu'il y avait quand même une spécificité locale très forte, même physiquement. C'était voilà, c'est un des très très bons moments du début d'année. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce moment-là. Et pour ceux qui ne savent pas, Marine, elle a eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps. Voilà, moi, je pense qu'elle aurait bien aimé nous le présenter si elle était venue. Donc, on espère qu'il va bien. Et puis, voilà, tu nous montreras entre midi et deux quand on mange. Merci beaucoup, Marine. Alors, on va donner la parole maintenant aux étudiants de Clermont-Ferrand. Et j'ai vu Cyril. Je le vois là, ça y est, il est là. Et donc, l'idée de cette journée de Clermont est venue donc de Cyril Triolaire, qui est maître de conférence historien à l'université de Clermont-Auvergne. Je ne sais pas comment on dit, de toute façon, ça change de nom tous les trois jours, les universités. Et Cyril, je l'avais rencontré plutôt sur la partie musique baroque. Il travaille toujours, lui, sur la Révolution française, sur le théâtre pendant la Révolution. Et il a eu l'idée de confier... un projet tutoré à ses étudiants. Et donc, nous avons eu une équipe assez impressionnante, très fraîche, très dynamique, beaucoup plus fraîche que nous, c'est là où on mesure qu'on n'a pas leur âge, qui ont organisé non seulement la journée d'études, mais beaucoup d'activités autour de cette journée. Donc, c'est de cela dont ils vont venir parler. Et je signale quand même qu'ils ont aussi réalisé un petit carnet pour raconter leur expérience. C'est en ligne sur le site de PIN et c'est vraiment très, très riche. Je trouve que c'est un vade-mecum vraiment mis en image de à quoi ressemble une journée PIN. Alors, l'équipe de Clermont, est-ce qu'elle est là?
Oui, c'est bon, je suis là, moi.
Coucou.
Oui, bah, super. Il y a tout le monde ou pas?
Oui.
On est tous là. Cool. Bah alors, bonjour à tout le monde et puis merci beaucoup Solveig et Luc de nous avoir invités et aussi de nous permettre de parler un peu de notre expérience PIN qui a été une super expérience. Voilà, moi c'est Verena et puis là comme vous pouvez le voir un petit peu à l'écran, je suis accompagnée par six autres personnes, donc Mathilde qui partage l'écran en même temps, super. Donc, il y a Mathilde, Alice, Paul, Arthur, Élise et Manon. Je crois que j'ai recité les mêmes personnes. Et donc, voilà, on était sept pour réaliser l'édition PIN Clermont qui a lieu donc, entre 2019 et 2020. Et comme l'a précisé Solveig, ce projet était assez particulier parce qu'il s'offrait à nous un peu comme l'exercice d'un projet collectif universitaire, aussi scientifique et professionnel dans le cadre de nos études, puisque au moment où on a entamé ce projet, nous étions à ce moment-là en deuxième année de master de professionnel de direction de projet ou établissement culturel, parcours action culturelle et artistique, donc à l'Université de Clermont-Auvergne. Et donc, finalement, comme le prévaut l'un des objectifs de PIND, notre but a été de nous concentrer sur la scène punk auvergnate, afin de proposer un éclairage sur l'activité punk en Auvergne, tout en questionnant aussi la spécificité et l'identité propre du punk auvergnat. Et donc, notre mission principale a été d'organiser donc, cette journée de colloque qui a donc eu lieu le 14 mars 2020, donc juste avant le confinement, et que nous avons aussi accompagné par différentes actions de médiation. Et pour mener à bien ce projet, donc, nous avons tous les sept évidemment fourni un travail à la fois organisationnel pardon, et logistique, et aussi un travail scientifique. Donc pour le coup, on a dû rapidement s'approprier l'objet punk. L'objet punk, voilà, puisque à noter que à peu près tous dans le groupe, on n'était pas spécifiquement originaire de la région auvergnate. Et puis, on était aussi tous personnellement plus ou moins assez éloignés de ce milieu culturel et musical. Et donc, pour s'approprier cet objet et la scène punk auvergnate, donc pour le coup, on a en quelque sorte endossé une casquette d'anthropologue et de sociologue, et où on a mené en parallèle un travail à la fois théorique et un travail de terrain. Donc, évidemment, on a engagé des lectures d'ouvrages scientifiques, on a mis en place des enquêtes qualitatives, donc avec des entretiens et une enquête quantitative en mettant en place un questionnaire. On a aussi participé à des événements de cette scène musicale en Auvergne pour en dégager des éléments et puis aussi pour établir un rapport assez sensible avec ce milieu. Et puis surtout, et le plus important, c'est d'aller rencontrer directement les personnes ressources. Donc autant des personnes qui s'y connaissaient, mais qui pouvaient être extérieures à cette scène musicale. Et nous sommes aussi alors évidemment des acteurs de cette scène musicale en Auvergne. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Manon qui va poursuivre la présentation.
Donc justement, on a fait énormément de rencontres, comme l'a dit Verena, au début, avant le colloque en fait, puisqu'on connaissait assez peu la région et les acteurs locaux. Et en fait, de toutes ces rencontres, se sont dégagées trois grandes thématiques. Donc d'abord, on s'est rendu compte que l'histoire locale était en fait très riche. Le punk s'est vraiment développé depuis les années 70 en Auvergne. Et durant le colloque qu'on a fait donc le 15 mars, on a développé ces différentes parties de cette histoire, notamment en invitant Lorraine Bornet, qui était une ancienne étudiante de notre master et qui a fait tout un travail de recherche sur l'histoire du punk local, et aussi avec un entretien avec Patrick Fouillou, qui était donc l'auteur du livre Histoire du rock à Clermont, qui a été vraiment une ressource hyper importante dans nos recherches. Donc ça, c'était la première thématique qu'on a développée. Et on a aussi développé une deuxième thématique qui est le punk et l'institutionnalisation. Puisque beaucoup des acteurs punk des années 80 sont maintenant des professionnels au sein des grandes structures de musique actuelle locale. Donc il y a vraiment une professionnalisation des acteurs du punk. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a une scène alternative qui s'est développée, qui est assez jeune et qui s'est développée grâce à des squats, notamment comme le Raymond Bar, qui est vraiment le lieu central du punk à Clermont. Et donc, durant le colloque, on a développé tous ces aspects de la scène alternative avec des tables rondes et des entretiens, notamment avec des musiciens de groupes locaux, comme les groupes Fox Hall et le groupe One Burning Match, qui était d'ailleurs programmé dans les concerts du soir. Et donc, ça nous a montré qu'à Clermont-Ferrand et en Auvergne, de manière générale, il y a une scène qui reste du coup très indépendante et qui est très dynamique et qui est aussi très jeune et qui du coup se développe en parallèle d'une scène plus institutionnalisée et du coup plus aussi rock, pop plutôt que punk. Voilà.
Okay. Bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, notre terrain, c'était l'Auvergne, et en particulier Clermont-Ferrand. Mais on est sorti de la ville aussi pour s'intéresser à la campagne, parce que l'Auvergne, c'est un territoire particulièrement rural. Donc on s'attendait à prendre connaissance d'anciennes initiatives qui ont pu avoir lieu sur ce territoire. On a eu des difficultés pour rencontrer cette histoire du punk en campagne, notamment à cause du manque de documentation, tout simplement. Normalement, on a réussi à remonter jusqu'à des acteurs d'événements qui se sont déroulés dans la campagne auvergnate. Et ils et elles nous ont amenés à des pistes de réflexion intéressantes. Donc voilà, on a entendu des récits, des parcours de vie, où des personnes ont pris des initiatives pour répondre à un besoin et à une envie de créer de nouveaux espaces de sociabilité, des espaces de fête aussi, et toujours en revendiquant un esprit punk et en ayant un goût particulier pour sa musique. Ces initiatives, ça voulait dire aussi qu'on va ramener cette musique chez nous, dans nos villages, par nous-mêmes. Et parmi ces personnes, on a donc rencontré notamment Franck D'Amour, un organisateur du festival Saint-Amand Rock Sa Vie. Donc, c'est un festival qui avait lieu à Saint-Amand, un petit village donc de 83 à 96. Mais aussi l'association Libertaire, qui est toujours actuelle, et qui a pour vocation d'organiser des événements culturels, notamment des concerts dans la campagne de l'Allier. Malheureusement, donc, lors du colloque, il y a eu des annulations suite à l'annonce du confinement. Donc, il n'y a pas eu d'entretien comme prévu avec ces personnes. Donc, on s'est intéressé à ce thème, on va dire, de punk et ruralité, notamment grâce à Audrey Toyon-Demessy, qui nous a parlé de chez Narcisse, donc dans les Vosges. Donc là, ça ne concernait plus forcément l'Auvergne. Par contre, par rapport aux rencontres et au travail qu'on a pu faire, ça peut être intéressant toujours pour le travail de PIN, de prendre contact avec les gens qu'on a rencontrés pour simplement entamer un nouveau bout d'histoire en Auvergne. Voilà, on sait que, par exemple, que Franck D'Amour a beaucoup d'archives, de photos et d'histoires à raconter, notamment sur l'effet qu'a pu avoir l'arrivée de centaines, voire même de milliers de festivaliers dans un petit village auvergnat de 500 habitants. Et donc voilà pour ce petit résumé de la journée de colloque à Beaumont. Et maintenant, il va y avoir Alice qui va vous parler un peu des médiations qu'on a aussi organisées en amont du colloque.
Donc effectivement, une des particularités de ce projet, c'était qu'on a fait des médiations en amont. Donc l'objectif de ces médiations, c'était de sensibiliser les 18-30 ans pour apporter quelque chose au projet PIN. Donc on a mis en place 5 actions de médiation, dont 2 à Liotopie. Donc Liotopie, c'est un tiers-lieu solidaire étudiant dans lequel le DIY a une place importante. Et donc c'était un moyen de toucher des étudiants intéressés par la culture DIY, sachant qu'à Liotopie, la culture punk n'était pas du tout présente. Donc, on a fait 2 actions à Liotopie, un blind test punk qui a rassemblé des étudiants n'écoutant pas de punk avec des amateurs et des musiciens du punk, et un atelier sur le fanzine dans le punk, donc un atelier plutôt DIY, avec un moment d'échange sur le fanzine dans le punk et la création d'un fanzine sur le punk. Ensuite, on a mis en place 3 actions à l'université, donc, qui est un lieu qui accueille de potentiels futurs chercheurs. Donc, c'était intéressant pour PIN. Donc, on a fait une intervention pendant 2 heures à un cours intitulé « Cinéma et contestation » auprès de licence 3, qui était intéressé par la recherche. Donc, on a fait ce cours à partir du film « Punk's Not Dead » de Suzanne Diener pour aborder la contestation dans le punk. Et on a aussi projeté le film Diesel de David Basso en partenariat avec Cinéfac. Donc Cinéfac, c'est une association qui projette des films, à l'université. Et donc après cette projection, on a donc fait une discussion autour du film. Et cette projection, elle avait lieu dans l'amphithéâtre Agnès Varda, qui était un lieu qui a accueilli à une époque des concerts de punk. Et enfin, on a mis en place une fresque participative sur le parvis de l'université. Donc c'était une fresque sur le punk et la révolte. Donc pendant la mise en place de cette fresque, on a discuté avec beaucoup d'étudiants et donc c'était une sensibilisation informelle et personnalisée et directe et individuelle de chaque étudiant. Et donc cette fresque, elle a été faite en partenariat avec Cultura. Donc toutes ces actions de médiation, elles ont permis de créer un lien avec plusieurs jeunes, donc entre plusieurs jeunes et le projet PIND. Certains donc, ont participé à plusieurs médiations, d'autres sont venus au colloque, d'autres sont venus au concert. Donc c'était intéressant de faire ces médiations. Je vais passer la parole à Paul qui va vous parler de la communication.
Pardon, mon micro n'était pas allumé. Bonjour, moi du coup c'est Paul. En reprenant donc ce que disait Alice, notre objectif c'était bien de sensibiliser le projet punk aux 18-30 ans. Et donc on a voulu inclure notre communication dans cet objectif. C'est pourquoi on a essentiellement travaillé avec Radio Campus Clermont-Ferrand. Alors que Radio Campus, pourquoi eux? Parce que c'est une radio locale qui a pour valeur déjà de mettre en avant les musiques actuelles, les découvertes, l'actualité locale et qui laisse aussi une place importante pour la jeunesse et les bénévoles. Grâce à Radio Campus, donc, on a pu intervenir dans une matinale en fait, chez eux pour présenter le projet PIN, pour présenter les actions culturelles que nous allons mettre en place, celles qui sont passées, et bien évidemment pour présenter la journée d'études et les concerts qui ont eu lieu au tremplin le samedi 14 mars. En plus de cette intervention, on a aussi sollicité Radio Campus pour faire un plateau extérieur au tremplin le jour J. Donc un plateau extérieur, c'est donc une émission qui était en direct pendant la journée d'études. Donc pendant ce plateau extérieur, on a fait une émission d'une heure et demie où on a reçu donc Luc et Solveig pour une interview et ils nous ont présenté le projet PIN. On a pu aussi faire des interviews des artistes qui allaient jouer le soir même, des intervenants qui avaient participé au colloque l'après-midi. Voilà. Donc c'était un partenaire très important dans notre communication Radio Campus, puisqu'on a pu faire de la communication en amont et le jour J. Ensuite, on a essentiellement réutilisé les canaux de PIND. Donc on a beaucoup utilisé la page Facebook pour créer nos événements et les partager, que ce soit pour les actions culturelles, la journée d'études ou les concerts. Donc Facebook, c'était un bon moyen, un moyen efficace de faire passer l'information en Auvergne, et tout en intégrant nos partenaires dans l'organisation, puisque à chaque fois qu'on organisait notre événement, on les rattachait à l'organisation. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, sur la journée d'études et les concerts qui ont lieu quelques jours en confinement, on avait plus de 2300 personnes qui avaient été invitées sur cet événement, plus de 900 personnes qui étaient intéressées et 107 participants. Donc bien évidemment, avec le contexte, nous étions limités à une jauge de 100 personnes le samedi 14 mars, sachant que dans l'équipe organisatrice, les intervenants, les artistes, etc., on était déjà entre 40 et 50 personnes, ce qui laissait peu de place aux spectateurs. Mais selon Frédéric Rose, le directeur du tremplin, cette journée, selon lui, elle allait tout droit vers un complet. Donc on peut en conclure que c'était donc une journée qui a été très bien reçue sur le territoire d'Auvergne, et donc qui a une réelle demande et un réel public qui s'intéresse aux musiques punk sur le territoire. Et enfin, donc, sur la communication papier, on est resté sur la base graphique de PIN en faisant appel à Podpunk pour l'affiche de la journée d'études et à Michel Ptu pour l'affiche des concerts du soir. Voilà. Je vais laisser place à Élise.
Et donc, je vais prendre la parole pour poursuivre sur un des points importants, finalement, de notre projet qui nous a permis de le construire et qui finalement aussi rend compte de ce que peut être cette scène auvergnate. Et pour ça, je vais demander à Mathilde si elle peut arriver sur la dernière diapo, qui est justement un plan du réseau que nous avons pu mobiliser au sein du projet, au cours du projet. Et où finalement, ça rend assez bien compte de ces différentes problématiques qu'on a pu dégager grâce à l'ensemble de nos rencontres, puisque nous avons réussi à mobiliser une certaine partie d'acteurs plus institutionnels, ce qui peut se comprendre étant donné qu'on est le placement du projet au sein de l'université, étudiants dans un cadre de recherche, mais aussi qui était un peu important pour nous vraiment d'intégrer des personnes venant de milieux plus underground, plus alternatifs, puisque ce sont ces fameux acteurs des musiques punk, que ce soit de manière entre guillemets historique, c'est-à-dire plus dans les années 80, grâce à la rencontre avec Patrick Fouillou, qui était acteur à cette période, notamment musicien, créant des fanzines aussi, mais aussi la scène actuelle, comme l'ont dit mes camarades plus tôt, avec des musiciens présents dans des lieux comme le Raymond Bar, qui aujourd'hui centralise quand même la plus grande partie de ce qui peut se faire en termes de musique, mais aussi de sociabilisation et de vie autour. Mais aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir tous ces acteurs qui sont aussi plus intermédiaires entre ces différents milieux et qui permettent aussi de faire le lien, qui ont été des très grandes ressources d'information, notamment Frédéric Rose par le tremplin, donc en lien avec à la fois des structures plus institutionnelles et le monde des musiciens, eux, parfois plus underground. Et donc, ce qui était aussi important pour nous, comme a pu le soulever Arthur plus tôt, c'était le fait de ne pas rester uniquement sur la localisation de Clermont, même si on s'attendait à ce que ce soit la plupart que nos recherches soient assez concentrées dessus, parce que c'est là où on aurait plus d'informations, que ce soit parce qu'on était situé à Clermont et qu'au niveau du bouche à oreille, ça allait être plus efficace. Aussi parce que la scène des années 70 jusqu'à aujourd'hui a toujours été relativement plus dynamique en Auvergne autour de Clermont-Ferrand. Mais c'était important pour nous dans nos recherches, effectivement, de ne pas se concentrer uniquement là-dessus. Et c'est finalement, en fait, il y avait assez peu de sources. Et finalement, c'est grâce aux journaux locaux, pour beaucoup, que nous avons réussi à retrouver des traces et à prendre contact avec des personnes finalement, effectivement, qui ont été de super ressources, que ce soit Franck Damour pour Saint-Amand-Roch, ça vibre, mais aussi justement qui a pu être présente et amener de la documentation. Corinne Jeudy, d'une ancienne association folklore urbain, qui a été surtout dans les années 80 et 90 du côté de Montluçon. Et tout ça, ça a été beaucoup grâce à finalement le journal local La Montagne. Et donc pour nous, c'est vrai que la journée d'études, c'était à la fois une manière de rendre compte de nos recherches, mais aussi un peu un espoir que la rencontre de ces différents acteurs, finalement de cette scène assez diverse, que ce soit en termes de période ou en termes de rapport aux institutions, puis se rencontrer, échanger sur ces problématiques qu'on avait mis en avant. Mais il y avait quelque chose aussi qu'on espérait peut-être, c'était que cette rencontre puisse amener la création de projets ou de choses en domaine musical. Mais il est certain que l'arrivée du Covid a rendu certainement plus difficile cette suite de rencontres des différents acteurs. Je vais donc laisser la parole à Mathilde pour un dernier petit mot sur ce qu'on a pu mettre en place.
Oui, donc en fait, pour conclure, Clermont, pour nous, ça a été une chouette aventure humaine, musicale, qui a été assez riche en rencontres et en découvertes. Et on est heureux de pouvoir continuer à suivre cette histoire qui continue à s'écrire un peu partout en France. Et on voulait remercier Solveig et Luc de nous avoir invités aujourd'hui et de nous avoir laissez ce temps de parole. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.
Merci.
Merci beaucoup, surtout à vous. C'est nous qui sommes très, très heureux de vous voir tous avec la même ferveur qu'au mois de mars. Vraiment, merci beaucoup. Puis on espère que vous aurez l'occasion de revenir lors des journées qu'on organisera. Voilà, on n'avait jamais fait ça avec des étudiants, ouais. Et c'est une expérience que j'ai. Ça n'a pas été toujours facile, hein, mais c'est une expérience qu'à la fin, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Et je crois que grâce au Covid, je ne dis pas à cause d'eux, à tout ce qui s'est passé après, on l'a encore plus apprécié derrière, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est un tout petit peu en retard et comme ça fait pas très longtemps que la journée d'ici les Moulineaux s'est tenue, on va être assez bref. Et en plus, c'était une demi-journée.
Voilà. Bon, c'était une demi-journée. Alors, je précise que cette journée d'ici les Moulineaux s'inscrit dans un partenariat. En fait, c'est la troisième année consécutive qu'on travaille avec ici les Moulineaux, avec Marino. La première année, on avait travaillé sur les questions d'implantation, de territorialisation du punk sur Paris Centre et banlieue, notamment. L'année suivante, on a réfléchi à la scénographie, qu'est-ce que c'est être en scène et comment on est en scène quand on participe, quand on joue dans un groupe punk. Et cette année, on avait décidé, on ne savait pas à l'avance évidemment qu'il y aurait la pandémie, on avait décidé d'interroger une question qui pour nous est essentielle et qu'on a traduite sous le titre « formation, déformation, reformation ». On avait décidé d'interroger cette question à la fois qui croise les temporalités hein, des groupes punk, durée dans le punk en quelque sorte, et puis les bifurcations, tout ce qui peut arriver dans un groupe quand on se sépare, quand on se reforme, et le rapport de cette question avec un autre aspect essentiel du punk qui est l'identité et l'authenticité. En fait, est-ce que ça a du sens, au fond, par exemple, de se reformer 20 ans après ? Est-ce que ça a du sens même de durer, hein, quand on part du message initial vaguement nihiliste, qui était le no future hein, du punk. Voilà. Donc, on avait décidé de travailler sur ces questions et comme vient de le rappeler Solveig, on a finalement organisé une demi-journée, donc un format assez réduit.
À cause du couvre-feu, parce qu'en fait, le groupe qui jouait derrière devait avoir fini à 21h, donc on a dû écourter la journée. Et accessoirement, ça a été la première fois aussi qu'on a utilisé le mode virtuel avec François Guimau qui était connecté toute la journée derrière en format 10 par rapport à d'habitude. Voilà, et comme ça a bien marché, ce format-là a bien marché, c'est aussi ça qui nous a donné l'envie d'organiser le colloque d'aujourd'hui en ligne.
Voilà, alors cette thématique, enfin, on pourrait dire que finalement, c'est un préchauffage, hein, parce que cette thématique, on va la relancer sur une journée beaucoup plus importante. Et ce jour-là, nous avons eu, je vais faire rapide, hein, nous avons eu trois communications et une table ronde. Toutes les communications étaient extrêmement intéressantes. Flavien Bertrand de Balanda a lui dressé un petit bilan, essayé de catégoriser un petit peu toutes les configurations possibles. Et puis on a eu deux autres communications.
Philippe Gonin sur Marquis de Sade. Avec en prime le nouveau titre après la mort de Philippe Pascal, et on a eu Philippe Roisès qui est venu parler, parler de RAS, voilà. Et à la fin, on a bénéficié d'une très belle table ronde parce que la veille, on avait organisé une release party de Strychnine sur le modèle de celle qu'on avait faite à la Rock School Barbet à Bordeaux en janvier dernier. Et donc, on en a profité pour mettre tous les musiciens à la table ronde. Et vraiment, ça a fait une très, très, très belle table ronde. Vous pouvez l'écouter sur le site de Pan avec une richesse dans les interventions vraiment très, très marquante.
Voilà. Donc, comme je le disais, de toute façon, cette thématique qui, pour nous, est vraiment essentielle parce qu'elle réinterroge tout le projet, en fait, hein, sur la question de la durée, sur la question des bifurcations de vie dans les groupes. On remettra ces questions à l'ordre du jour dans de prochaines journées d'études. Et j'ajoute, pour conclure rapidement, que le choix n'était pas anodin hein, du groupe Strychnine sur la release party, parce que Strychnine, c'est un groupe qui a eu, au fond, une première durée de vie très courte, 76-77 jusqu'en 82. C'est un groupe qui a éclaté en vol, et puis qui, par la suite, En grande partie, parce que Kik, le chanteur, était moteur dans cette aventure, a pu se reformer, mais très tardivement, hein, autour des années 2007-2008, et puis en changeant de personnel, puisque c'est pas la formation originale, mais en conservant le répertoire. Et on voit toutes les questions que ça peut poser, ce type de reformation. Voilà. Donc, je conclue rapidement, encore une fois, pour dire que nous reviendrons sur cette thématique qui est vraiment essentielle pour le punk, c'est l'histoire de la scène punk en France.
Voilà pour donc les journées passées. On reviendra en fin de journée sur les journées à venir, comme ça on a quelques petites annonces.